Les marchandes de sable, fable de La Fontaine. L'alouette et ses petits, avec le maître d'un champ. Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstre marin au fond de l'onde, tigre dans les forêts, alouette au champ. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrent avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De mille soins divers, l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle, écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera, sitôt que l'alouette, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ces blés sont mûrs, dit-il. Allez chez nos amis, les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. Il a dit que l'aurore levée, l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout au bon écouter. Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. Heureux pu, tous s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi lent. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. L'épouvante étonnée plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. Non, mes enfants, dormez en paix. Ne bougeons de notre demeure. L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils, et savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions dès demain chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. » Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, c'est sous coup qu'il est bon de partir, mes enfants, et les petits, en même temps, voltant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette. Le bûcheron et Mercure à Monsieur le Comte de Brienne. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté des moyens d'acquérir mon suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un autre gâte tout tant il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais une instruit, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, deux pivots sur qui rouge aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens. Les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Homme, Dieu, animaux, tout y fait quelques rôles. Jupiter comme un autre, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain. C'est sa cognée. Et la cherchant en vain, se fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs, toute baignée. « Oh, ma cognée ! Oh, ma pauvre cognée ! » s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi ! Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. « Mercure vient. Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtras-tu bien ? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » L'or, une d'or à l'homme étant montré, il répondit. « Je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première. » Il la refuse. Enfin, une de bois. « Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. » « Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée. Et beau qu'ils ont de perdre leurs outils et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eut cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela ? Jupiter n'est pas dupe. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne. Je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque manière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés, mes gens s'en vont à trois pieds. Clopin clopant comme ils peuvent, l'un comme l'autre jeté au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant. Je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme en voyant son butin. « Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre carpillon lui dit dans sa manière. « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. » Quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille ? Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui fête le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Les oreilles du lièvre. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion, qui, plein de courroux pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine. Toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux aussitôt délogèrent, daims et cerfs de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'allait interpréter à cornes leur longueur. ne les sous-tintant toutes à des cornes pareilles. « Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi. Et quand je les aurai plus courtes qu'une autruche, je craindrai même encore. » Le grillon repartit. « Cornes cela ? Vous me prenez pour cruche ? Ce sont des oreilles que Dieu fit. » « On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. »